Chapitre 3. Bien que le bal de la noce saccapée eût fait coucher la troupe à une heure avancée de la nuit, le lendemain matin, au jour levant, tous les hommes étaient à l'ouvrage. Il fallait, dans la salle marinier, monter le théâtre sur des tréteaux, équiper les décors, disposer les accessoires analogues au sujet, comme disait Duchâtelier dans ses annonces, et il y avait du travail pour toute la journée. Heureusement, ce travail était facilité par les attitudes particulières de Joseph et de Théodore, qui, avant d'être comédien, avaient été ouvriers du bâtiment, Joseph menuisier, Théodore peintre. Dans une année de chômage, Théodore, qui, depuis son enfance, hurlait des chansons sur ses échelles et ses échafaudages, avait demandé à son talent de chanteur de le faire vivre, où il avait débuté par Bruno le fileur, qui lui avait valu un succès considérable. Un jour, à Coulommiers, Joseph, qui venait d'être libéré du service militaire et allait rentrer à Paris, avait vu Zite et, pris au cœur, il s'était engagé dans la troupe de Duchâtelier, par amour, pour suivre celle qu'il aimait, vivre près d'elle, l'entendre, lui parler, la regarder, lui dire en scène ce qu'il devait être, rentrer dans la coulisse. Si Duchâtelier et Lachapelle faisaient fonction de directeur et de régisseur aux répétitions des pièces nouvelles, Joseph et Théodore prenaient la première place quand il s'agissait de monter le théâtre. Ils commandaient, on leur obéissait, et c'était les coups de marteau de Joseph, appliqués d'une main sûre, qui marquaient le mouvement. Quand on construit ces théâtres forains en plein air, leur disposition étant toujours la même, l'assemblage s'en fait facilement et vite. Mais quand ils doivent, comme le théâtre du Châtelier, se plier aux dimensions d'une salle close, c'est l'emplacement qui commande leur distribution. Il faut les agrandir ou les rapetisser, et chaque fois, c'est une construction nouvelle. À Noisy, la salle de bal étant grande, la scène était grande aussi, et le matériel transporté par les roulottes, se trouvant insuffisant, on le complétait avec des emprunts faits aux propriétaires, qui étaient entrepreneurs de maçonnerie en même temps que marchands de vin. À la vérité, ces planches, ourdées de plâtre et de mortier, formaient de bizarres dessins blancs mêlés sur la scène aux vieilles planches des roulottes, mais le public n'y regardait pas de si près. Il avait un théâtre sur lequel ses comédiens pouvaient se livrer à des mouvements tout à fait dramatiques, cela suffisait. Joseph, à la fois architecte et maître compagnon, dirigeait tout et, sous ses ordres, le personnel masculin de la troupe travaillait activement, Duchâtelier comme les autres, malgré son importance. Seulement, comme il n'avait point l'habitude d'un pareil labeur, il suait sang et eau, et quand il avait dû, à son tour, balayer une planche encroûtée de plâtre, il étouffait. Alors, on faisait une pause, et, conduit par lui, on allait tous ensemble boire un verre sur le comptoir du marchand de vin. Ce fut pendant un de ces repos que Permettez vint présenter sa demande à Duchâtelier, qui, prévenu par sa femme, voulut bien répondre en trinquant qu'il était fort honoré d'ouvrir la scène française à un jeune homme aussi distingué, aussi... Il chercha sans la trouver une épithète bien ronflante que Monsieur Permettez. Puis, lui donnant une forte poignée de main en se renversant en arrière pour faire bomber sa poitrine et agrandir sa taille, « Et vous m'aurez vu de près !» dit-il avec une simplicité scénique. L'avoir vu, de près, de loin, de face, de dos, de profil, dans le dîner de Madelon ou dans Lazare le pâtre, Duchâtelier n'imaginait pas qu'il y eût de plus grand bonheur pour un mortel. « Vous avez vu Frédéric le maître d'Ankin ? C'est bien, mais moi, m'avez-vous vu ? Ce n'était pas lui qui voyait les pays par où il passait, c'était ces pays qui le voyaient. » Lanny m'a vu dans Don César de Bazan, Coulommiers dans 30 ans. Et quand il avait dit cela modestement, ou tout au moins avec la mimique convenue pour exprimer la modestie, les yeux baissés, la tête à demi détournée, les deux mains jetées en avant, il n'imaginait pas que les habitants de Lanny ou de Coulommiers pussent désirer d'autres jouissances artistiques. Lorsqu'ils rentrèrent dans la salle de bal, ils y trouvèrent Zite qui venait voir où en était le travail. Au saut du lit, elle avait chaussé ses beaux souliers dont elle avait rêvé, et elle marchait toute fière en avançant le pied et en se penchant pour les admirer. Ils sautèrent aux yeux de Joseph. « Comme tu as de beaux souliers, dit-il en venant à elle. « N'est-ce pas ? Comment trouves-tu qu'ils me vont ?»«
Jamais je ne t'ai vu le pied aussi fin, aussi joli. Tu viens de les acheter ?»«
Non, c'est M. Permettez qui me les a donnés hier au soir. »«
Ils te donnent des souliers, s'écria-t-il. Et toi, tu les acceptes ? Tu n'es pas arrivé qu'ils viennent te voir. »
Elle haussa les épaules.
« Sois donc raisonnable, mon pauvre Joseph !»
Mais Joseph ne pensait guère à être raisonnable, ni même à écouter ce qu'elle lui disait. C'était sa pensée qu'il suivait, sa jalousie affolée qui l'emportait.
« Et c'est pour se rapprocher de toi qu'il veut jouer le caporal !»
Elle se mit à rire.
« Je t'assure qu'il a une manière de dire « silence » qui est drôle !»«
Tu le trouves drôle ? » s'écria-t-il. « Et beau aussi, n'est-ce pas ? Et spirituel et charmant. Pourquoi ne le dis-tu pas ?
Es-tu assez insupportable ?
C'est ça, moi, je suis insupportable.
Hé, Joseph ! Cria Duchâtelier, viens donc ici, on a besoin de toi.
Je ne travaille plus, répondit-il furieux.
Comment, tu ne travailles plus ?
S'éloignant de Zide, Joseph se rapprocha de la scène.
« Êtes-vous décidé à donner le rôle du caporal à l'épicier ? » demanda-t-il les dents serrées.
« Puisque ça lui fait plaisir à ce garçon.
Suis-je chef d'emploi ou ne le suis-je pas ? »
« Qu'est-ce que tu nous chantes ? » demanda Duchâtelier stupéfait.
« Je chante que si l'épicier joue ce soir, je donne ma démission. »
Ils s'étaient tous arrêtés et ils le regardaient ahuris. Zite, qui l'avait suivi, le prit par le bras et le forçant à se retourner, «
Viens un peu là-bas, » dit-elle en lui montrant la porte d'entrée.
Il voulut résister, mais elle lui serra doucement le bras et, aussitôt, la tête basse, il la suivit.
« Si j'étais ta femme, que dirais-tu donc ? » demanda-t-elle.
« Rien, parce que tu m'aimerais et alors j'aurais confiance en toi. Mais tu n'es pas ma femme, tu ne m'aimes pas, qui peut te défendre ?»«
Moi !»«
Toi ! Toi,
tu ne t'es pas trompé en pensant que M. Permettez veut se rapprocher de moi.
Tu vois,
il veut même mieux que ça.
Joseph fit un pas vers la porte.
Je vais lui régler son compte.
Es-tu mon père, mon frère ? Il veut m'épouser.
Habituellement, Joseph était pâle ou plutôt sans couleur. Son teint blême devint livide. Il se prit la tête dans les deux mains.
« Mon Dieu » murmura-t-il.
Elle lui posa la main sur l'épaule.
« Crois-tu donc que je te dis cela pour te torturer ? » demanda-t-elle. « Tu me connais mal.
Alors ?
Je devrais te martyriser pour m'avoir cru capable d'accepter M. Permettez pour mari. »
« Ah, Zite, ma petite Zite ! » s'écria-t-il éperdu de joie.
« Donnes-tu toujours ta démission ?» demanda-t-elle avec un sourire un peu moqueur.
Sans répondre, il courut à l'estrade et, sautant dessus, il reprit son travail en chantant, tandis que Zite rentrait dans la roulotte pour préparer le repas du matin, Marietta ayant filé depuis longtemps déjà chez son ami le petit bossu. D'ordinaire, ce n'était pas Zite qui s'occupait de la cuisine, car Duchâtelier, qui croyait à l'avenir artistique de sa fille, ne voulait pas, selon sa noble expression, qu'elle compromît dans des besognes vulgaires la pureté de ses mains. Mais, comme tous les dimanches, Madame Duchâtelier allait à la messe, il fallait bien qu'en son absence, quelqu'un préparât le déjeuner de la troupe, et ce quelqu'un était Zite, avec la collaboration de La Chapelle et de Joseph, quand ceux-ci n'avaient rien de mieux à faire. Ce n'était pas une des moindres curiosités de la vie intime de cette troupe que la piété de la directrice, au moins pour ceux qui ne voyaient dans Madame Duchâtelier qu'une comédienne comme beaucoup d'autres.
Une comédienne à la messe. Est-ce que ces gens-là ne sont pas excommuniés ?
Mais, justement, Madame Duchâtelier n'était pas une comédienne comme beaucoup d'autres, et même, à dire vrai, personne ne l'était moins qu'elle. La plus rangée, au contraire, la plus timide des bourgeoises, avec tous les traits de caractère qui sont le fond même du bourgeoisisme. Ce n'était pas l'amour de l'art, pas plus que les hasards de la camaraderie, qui, à 25 ans, l'avait mariée à un jeune premier rôle des théâtres de Montmartre et de Batignolles. C'était simplement l'amour.
C'était parce qu'elle l'aimait qu'elle l'avait épousé, et c'était parce qu'il était comédien qu'elle était devenue comédienne, sans cesser pour cela d'être ce que la nature et l'éducation première l'avaient faite. Orpheline à 18 ans, d'un petit nobliau de province que les procès avaient ruiné et qui était venu mourir à Paris, elle avait dû entrer dans une fabrique de confiserie pour gagner son pain et, tout de suite, par son zèle et sa régularité, elle s'y était fait une petite position. N'étant pas logée dans la maison de commerce, elle habitait Montmartre et, comme elle n'avait ni parents ni amis à Paris, tous les dimanches, après la messe et les vêpres, ne sachant que faire et n'osant pas se promener toute seule, elle allait au théâtre avec deux vieilles filles qui étaient ses voisines. Régulièrement, quelque temps qu'il fît, on les voyait arriver à la queue, portant chacune un pliant, et sous leur ombrelle quand le soleil brillait, sous leur parapluie quand il pleuvait, elles attendaient patiemment l'ouverture des bureaux pour être bien certaines d'occuper leurs places habituelles qui leur appartenaient en quelque sorte. À cette époque, l'un des jeunes premiers rôles, celui qui, avec Delafosse, Fanollier, Striffler, exerçait le plus de prestige sur le public, était Duchâtelier, le rival de La Ferrière, à Montmartre, pour les pantalons collants, les redingotes serrées à la taille et le coup d'œil fatal. Tant de mérite n'avait pas pu ne pas troubler une fille romanesque. La façon dont il boutonnait et déboutonnait sa redingote dans les scènes décisives l'avait prise au cœur, et le coup de pouce qu'il donnait pour appuyer la situation l'avait achevé. Elle s'était mise alors à l'aimer, pensant à lui toute la semaine, vivant de l'espérance de le voir le dimanche suivant. Qu'il était beau, tendre, passionné, chevaleresque, il était pour elle le héros vivant de ses rêveries d'honnête fille, le type auquel elle ramenait ses lectures, et, conduite par lui, elle chevauchait sur les sommets bleus où la promenait son imagination. Cela avait continué pendant des années, sans que, bien entendu, il la connût. Il savait que, dans cette salle qui pleurait ou s'enthousiasmait à sa voix, il avait un sérail, mais les favorites en titre empêchaient le regard des discrètes et des réservées d'arriver jusqu'à lui, et c'était au dernier rang des plus discrètes qu'elle se plaçait elle-même. Il était si beau, il était tant aimé. Car pendant les heures qu'elle passait sur son pliant, elle entendait parler de lui par ceux qui l'entouraient, et les histoires qu'on racontait étaient bien faites pour le hausser en même temps que pour l'abaisser elle-même. L'épingle qu'il portait à sa cravate lui avait été donnée par la femme d'un restaurateur de la rue des Martyrs, le diamant qui brillait à l'un de ses doigts par une princesse étrangère dont personne ne connaissait le nom et ne le connaîtrait jamais, avait-il dit lui-même, quand on avait voulu le faire parler de cette femme qui était une très grande dame, comme dans la tour de Nesle. Pauvre fille, sans argent et sans beauté, que pouvait-elle être jamais pour ce vainqueur ? Cependant, après bien des luttes et bien des hésitations, un dimanche, elle s'était enhardie. Il faisait une belle journée de printemps, Paris était en fête, les jeunes gens qu'elle avait rencontrés en allant à l'église et en revenant chez elle semblaient courir à des rendez-vous, l'amour sur les lèvres et dans les yeux, il y avait des parfums de fleurs dans l'air. Au lieu d'attendre ses voisines pour s'en aller toutes les trois ensemble comme à l'ordinaire, elle était sortie seule et, dans la rue, sur la petite voiture d'une fleuriste, elle avait choisi un gros bouquet de violettes qu'elle avait porté chez le concierge du théâtre pour Monsieur Duchâtelier. Le nom avait été jeté si vite, le bouquet avait été déposé si rapidement sur une tablette que le concierge n'avait pas eu le temps de distinguer la femme qui avait ouvert et refermé sa porte comme un coup de vent. Quelle émotion, quel anéantissement de bonheur quand, à l'entrée en scène de Duchâtelier, elle avait vu qu'il portait trois ou quatre brins de violettes à la boutonnière de sa redingote. Sans doute, elle s'était trahie, car dans son trouble de joie, elle avait senti qu'il tenait ses yeux attachés sur elle plus longtemps que s'il ne l'avait regardée que par hasard. Son émoi ne s'était un peu calmé qu'en se disant qu'il ne la connaissait point et qu'il n'y avait pas de chance pour qu'il la connût jamais. Comment croire qu'un homme tel que lui, dans sa position brillante, que toutes les femmes aimaient, allait prendre souci d'une pauvre fille comme elle ? Il avait voulu savoir de qui venait ce bouquet, voilà tout. Les choses ne pouvaient pas aller plus loin. le dimanche suivant, si elle n'avait pas osé porter elle-même un second bouquet, il lui avait été impossible cependant de résister à la joie de l'envoyer. Et cet envoi s'était régulièrement répété pendant 3 ou 4 mois, chaque dimanche, sans que, de son côté, du Châtelier parût désirer connaître celle qui le lui envoyait, de plus près que par le regard qu'il attachait sur elle lorsqu'il entrait en scène et qu'il la cherchait à sa place. Un soir de juin, comme elle était assise sur un banc du boulevard de Clichy pour respirer un peu d'air frais avant de rentrer chez elle, après une journée de lourde chaleur, elle avait vu son héros, qui ne jouait pas ce soir-là, passer devant elle, le nez au vent, la tête de 3/4 comme il convient quand on daigne se montrer aux populations, marchant la pointe des pieds en dehors, en tendant le jarret. « C'est moi, du Châtelier, voyez, admirez, aujourd'hui, la vue n'en coûte rien. » Au moment où il allait la dépasser, il avait reconnu, car il ne faisait point un pas sans jeter autour de lui un regard circulaire qui ramassait les admirations et, s'arrêtant, il l'avait saluée. Puis, après un court moment d'hésitation, il s'était assis auprès d'elle. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour confesser cette pauvre fille éperdue d'émotion qui, malgré ses 25 ans, était timide comme si elle en avait 15. On s'était revu, car il ne l'avait pas jugée comme elle se jugeait elle-même, ce qu'elle appelait sans beauté était plus justement sans éclat. En réalité, elle était grande, bien faite, avec un visage régulier et une physionomie qui, dans sa placidité, ne manquait pas d'une certaine noblesse. Il s'était laissé aimer par plus d'une qui ne valait pas celle-là. Sur ces entrefaites, un cousin qu'elle avait au pays natal était mort, lui laissant une 40 000 francs. En la voyant habillée de noir, du Châtelier, qui, jusqu'alors, ne s'était pas engagé bien en avant, s'amusant surtout de l'innocence de cette honnête fille, avait changé d'attitude et aussi de langage. Au lieu de continuer l'éloge du théâtre et le récit de ses triomphes, ce qu'il faisait toutes les fois qu'il la voyait, il avait laissé entrevoir que ses triomphes n'étaient pas en réalité ce qu'on imaginait dans le monde entier et qu'on ne les obtenait que par de cruelles souffrances. Nulle part, la lutte n'était plus dure et plus implacable que dans les coulisses. Nulle existence n'était plus tourmentée que celle du comédien. Et elle avait eu la surprise d'apprendre que ces héros, qu'elle s'était habituée à imaginer dans la vie ordinaire, tels qu'elle les voyait sur la scène, ne sont que des êtres envieux, dévorés de jalousie, qui ne pensent qu'à jouer les tours les plus indignes ou les plus misérables à ceux de leurs camarades qui réussissent. Ainsi, du Châtelier était victime de cabales nombreuses, uniquement parce qu'on le trouvait trop beau. Le talent, on peut le dénigrer, mais la beauté, il faut la subir. De là, la haine qui l'enveloppait. Ces hommes qui expriment les sentiments les plus nobles et n'ont à la bouche que les mots de devoir, de dévouement, de sacrifice, ne sont en réalité dans la vie que de grands enfants ou des femmes affolées de coquetterie. Ils ne pensent qu'au charme de leur personne, qu'à leur blanc, leur noir, leur rouge, à leur perruque, à leur costume. Aussi en avait-il assez, l'existence n'était plus tenable, au moins dans ce milieu. Assurément, il ne voulait pas abandonner le théâtre. Quand on est artiste, on meurt artiste. Mais, au lieu de rester en butte aux mauvais procédés de ses camarades envieux et de supporter plus longtemps les injustices des directeurs imbéciles, il se préparait à devenir directeur lui-même quand il aurait réuni au fond qu'on lui avait déjà promis quelques sommes qui compléteraient son capital, car il était prudent et ne voulait rien entreprendre sans être sûr de réussir. Le résultat de ses confidences avait été de transformer en dot les 40 000 francs de l'héritage et du Châtelier avait organisé des tournées dans lesquelles les anciens camarades ne pouvaient pas monter de cabale contre leur directeur. Mais, après les cabales, c'était de la déveine que du Châtelier avait eu à souffrir. En organisant ses tournées, il s'était imaginé que la gloire de son nom avait dû pénétrer dans un certain rayon autour de Paris et qu'il n'aurait qu'à paraître à Saint-Denis, à Pontoise, à Corbeil, à Étampes pour faire des recettes assurées. Mais il avait fallu en rabattre et reconnaître que les populations de ces villes étaient encore bien arriérées. Il avait persisté, lutté, il s'était endetté, et si bien qu'un jour, il lui était resté à peine assez de ressources pour acheter les 2 roulottes qui devaient lui permettre d'exploiter les villages. C'est alors que, pour faire des économies, Madame Duchâtelier, qui jusque-là avait été la caissière de l'entreprise, était devenue comédienne, acceptant l'emploi des premiers rôles de drame auxquels sa prestance la destinait, disait son mari. Et c'était par économie aussi, pour utiliser ses enfants, que successivement Stanislas, Zit et Marietta étaient montés sur les planches à mesure que leur âge le permettait. Encore était-il vrai que cet âge avait été singulièrement avancé et qu'on leur avait fait jouer, à 10 ou 12 ans, des rôles de 20 et de 25.